Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, les choses de la vie à la sauce inter, en direct ou en podcast sur franceinter.fr. Bonjour Sabrina Nadjar.
Bonjour Ali.
Comment allez-vous ?
Très bien et vous ?
Rédactrice en chef adjointe de l'hebdomadaire Femme Actuelle, on vous retrouve tous les mardis en fin d'émission afin que vous nous racontiez les petites et grandes choses de la vie. Quoi de neuf cette semaine ?
Eh bien écoutez, cette semaine on va parler des femmes qui décident d'être mères à 40 ans.
Et plus.
Et plus.
À tout à l'heure. Et ce matin, on se demande s'il faut avoir peur du transhumanisme. Le transhumanisme, c'est ce mouvement de pensée, cette idéologie, selon certains, qui souhaite repousser nos capacités physiques, mentales et sensorielles au-delà de nos limites naturelles, pour vivre par exemple le plus longtemps possible, pourquoi pas 1000 ans, de quoi bousculer quelque peu nos existences. Mais sommes-nous vraiment sûrs de vouloir nous doter de capacités surhumaines, comme Superman ? Est-il vraiment enviable de devenir quasiment immortel, comme Dracula ? Est-on vraiment prêt à ce que l'intelligence artificielle remplace un jour l'intelligence humaine, un peu comme l'ordinateur HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace? Le transhumanisme nous promet puissance et immortalité, mais pose de profondes questions éthiques et pratiques avec d'immenses répercussions sur nos vies quotidiennes. Si un jour cette promesse se concrétisait, nous attendons vos témoignages, réactions et questions au 01 45 24 7000 par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Steve Austin, astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bio-ionique. Steve Austin deviendra cet homme. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur.
Un extrait de la série L'homme qui valait 3 milliards dans les années 70. Un homme bionique aux capacités surhumaines et à l'intelligence exceptionnelle, inusable et qui ne connaîtrait pas la mort. Voici en quelques mots le rêve du projet transhumaniste. Bonjour Jean-Michel Beignet.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, professeur à l'université Paris-Sorbonne et vous avez coécrit avec Laurent Alexandre « Les robots font-ils l'amour ?» Le transhumanisme en 12 questions, publié chez Dunod. Jean-Michel Beignet, le transhumanisme était un fantasme de science-fiction qui pourrait un jour bouleverser nos existences. Pouvez-vous nous expliquer de façon claire ce qu'est le transhumanisme à quelqu'un qui n'en aurait jamais entendu parler ? Je rappelle que le transhumanisme, c'est un mot inventé en 1957 par Julian Huxley, le frère d'Aldous Huxley, le célébrissime auteur du Meilleur des Mondes.
Eh bien, en quelques mots, le transhumanisme désigne le courant d'opinion qui s'est développé autour des laboratoires de haute technologie dans le monde et surtout aux États-Unis, un courant d'opinion qui considère que les sciences et les techniques offrent aujourd'hui à l'humanité le moyen de réaliser tout ce qu'elle espérait. Donc c'est un mouvement qui résolument nous dit que le meilleur des mondes n'est pas dans la main des politiques, mais est dans la main des technoscientifiques. Hein, donc ce sont les dispositifs techniques que nous développons aujourd'hui qui vont nous permettre donc d'être pleinement épanouis. Et évidemment, quand on parle de l'épanouissement de l'espèce humaine, rien de tel que de mettre en avant l'immortalité, parce que nous sommes censés ne pas vouloir espérer plus que cela.
C'est un mouvement d'opinion qui agit ?
C'est un mouvement d'opinion qui agit, et qui agit notamment sur les politiques de recherche d'un grand nombre de sociétés modernes. Aujourd'hui, on voit de plus en plus des projets qui auraient été catalogués il y a encore quelques années comme parfaitement fantaisistes. Eh bien, ces projets sont désormais financés avec de l'argent public la plupart du temps. Et donc, on peut dire qu'il y a bel et bien une action tangible dans l'orientation des recherches et dans les réalisations industrielles, par exemple dans la robotique.
Et oui, un petit nombre de disciplines comme les nanotechnologies, les biotechnologies, l'informatique et les sciences cognitives conjuguent leurs forces avec un but, qu'un jour advienne ce que vous appelez un post-humain.
Un post-humain, oui. Alors c'est intéressant parce que transhumanisme, on entend dans le terme transition. Donc, nous sommes en train de ménager une transition entre l'humain que nous sommes et un humain qu'on appelle de plus en plus communément un humain augmenté, c'est-à-dire un humain qui aura intégré dans son anatomie des dispositifs, par exemple cybernétiques, c'est-à-dire des dispositifs capables de s'auto-réguler et de produire une augmentation de performance cognitive, une augmentation de facultés sensorimotrices, etc. Mais si on pousse la chose très loin, au plus loin, on peut imaginer aussi que cet humain augmenté fasse mutation, hein, et fasse advenir une nouvelle espèce qu'on pourrait appeler le post-humain.
Zéro défaut.
Dont nous ne savons pas ce qu'il pourrait être, puisqu'il résultera d'une émergence. Ça sera un phénomène émergentiel, comme émergent dans la nature de nouvelles espèces sur la base de mutations, de combinaisons nouvelles. La nouvelle espèce est forcément parfaitement inédite. Donc le post-humain pourrait être l'horizon de l'humain que nous sommes, pourvu que nous augmentions ce que nous sommes.
Bonjour Mathieu Terrence.
Bonjour.
Vous êtes écrivain, vous avez écrit de nombreux romans et nouvelles, et vous venez de publier « Le transhumanisme est un intégrisme » aux éditions du Cerf. Pour quelle raison ce courant de pensée est-il, selon vous, une imposture, un projet aberrant et dangereux ?
Je ne sais pas si je dis une imposture.
En vous lisant, c'est ce que j'ai compris.
Oui, dans le sens où ça prétend à quelque chose qui est beaucoup plus aléatoire que ce que ça définit. J'appellerais pas ça un courant de pensée. Pour moi, dans mon petit livre, j'appelle ça une doctrine, une idéologie. C'est une utopie, ça propose effectivement un nouvel homme, une nouvelle vie. Mais comme toute utopie, ça se fait aussi à partir d'un humus qui est notre époque et de la valeur dominante de l'époque dans laquelle cette utopie a lieu. La valeur dominante de notre époque, aujourd'hui, on pourrait dire, en tout cas l'une des valeurs dominantes ou des qualités qu'elle requiert, c'est la performance, c'est la perfection, c'est la concurrence. Et donc, le nouvel homme que propose le transhumanisme, c'est un homme qui conjugue toutes ces qualités qui sont aujourd'hui plébiscité ou mise en valeur ou qui rendent la vie en société optimale. Voilà. Donc je conteste en fait l'arrogance de cette doctrine qui se permet de donner une idée fixe de l'avenir. Et j'ajoute que l'avenir qu'elle laisse entrevoir me paraît relever tout à fait de la science-fiction. Les postulats, quand on s'y connaît un peu en génétique, ne tiennent absolument pas compte du phénotype, enfin des choses comme ça. Mais je la trouve très embêtante, on va dire, même pas inquiétante, par rapport à ce qu'elle sous-entend de la manière dont on considère l'homme aujourd'hui. Comment on voit l'homme aujourd'hui pour penser qu'il a tellement besoin d'être augmenté ? Et quelle est la vie des gens aujourd'hui dans quel état peut-on améliorer la vie des gens aujourd'hui avant d'avoir besoin de l'augmenter ? Voilà.
Mathieu Terrence, en 1999, vous aviez publié un livre assez extraordinaire, Journal d'un cœur sec, qui était une suite du portrait de Dorian Gray. Je le rappelle, Dorian Gray ne vieillit pas alors que son portrait vieillit et se flétrit dans une pièce fermée à clé. La jeunesse et la santé quasi éternelle sont des motivations profondes du projet transhumaniste. Vous n'êtes pas séduit par ces promesses assez alléchantes ?
Ma question, c'est une question un peu d'artiste, c'est quelle vie vit-on ? Et à quelles conditions veut-on qu'elle perdure ? Et qu'est-ce que c'est de vivre ? Qu'est-ce qu'on voudrait vivre éternellement ? Alors c'est une question presque nietzschéenne. De quoi voudrait-on l'éternel retour ? C'est souvent des gens qui sont pas du tout contents de leur existence, qui ont besoin d'imaginer qu'elle doit durer des siècles. C'est assez paradoxal d'ailleurs. Et c'est vrai que Dorian Gray, c'est marrant que vous fassiez ce lien parce que il y a eu comme ça à la fin du 19e siècle, au cours du 19e siècle, des mythes, des nouveaux mythes en fait, qui ont forgé paysage intérieur de l'ultramodernité. On pourrait dire Frankenstein, on pourrait dire Dr Jekyll et Mr Hyde, on pourrait dire aussi Faust. L'île Docteur Moreau. Alors Faust, évidemment. Alors lui, c'est avec génie. Oui, il y a un pacte comme ça diabolique comme ça sur.
On reviendra tout à l'heure avec le directeur du magazine Lire, Julien Bisson, sur Frankenstein. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Le psychiatre humaniste que l'on retrouve tous les mardis dans Grand Bien Vous Fasse. Notre thème du jour a fortement inspiré vos choses vues.
Bah oui, j'ai vu cette semaine un stade à côté d'un cimetière. Figurez-vous que ça m'a fait penser au transhumanisme.
À tout à l'heure. Nous attendons vos témoignages, réactions et questions au 01 45 24 7000 par mail grandbienvousfasse@radiofrance.com et sur notre page Facebook. Une émission préparée par Alexa Rivière et Claire Destacan avec l'aide de Théo Denmat et réalisée par Jérôme Boulet. When you go away, I won't be following, though I know. Exactly where you'll be going. My hands are tied, through with begging. He tried to run the race, but we've already hit the finish. Let me go, let me go. Let me go. Le très beau Feel Like Me de Cassius et Cat Power.
France Inter, grand bien vous fasse.
10h19, faut-il avoir peur du transhumanisme, ce courant de pensée qui promet un homme amélioré, augmenté, qui pourrait vivre plusieurs centaines d'années, de quoi bouleverser nos vies quotidiennes. Avec nous ce matin, le philosophe Jean-Michel Beignet, qui publie « Les robots font-ils l'amour ?» et l'écrivain Mathieu Terrence, qui vient d'écrire « Le transhumanisme est un intégrisme ».
Julien Hélène débarque en 2067. Tout est extrêmement silencieux. Il n'y a pas un bruit. Il tente d'établir le contact.
Mademoiselle, vous n'allez pas me croire, mais je viens du passé et j'aimerais discuter avec vous.
Oh, bon, ça marche pas vraiment. Mais c'est à ce moment-là qu'un homme lui demande de le suivre. Ceux que tu as vus dans la rue sont des transhumains. Ils peuvent contrôler la technologie par la pensée.
Quelle folie !
Ah bah les transhumains !
Ah bah les transhumains !
Ah oui ? Mais comment ?
Grâce à ces implants qu'ils introduisent dans leur cerveau à la naissance. Mais nous allons les supprimer.
Les implants ?
Non, les naissances.
Mais s'il n'y a plus de naissance, il n'y aura plus d'humains.
Oui, mais plus de transhumains.
Oui, mais plus d'humains.
Oui, mais plus de transhumains.
Oui, mais...
Oh, moi, je me casse, il est pénible, ce mec.
Un extrait d'un sketch diffusé sur Arte Futur en 2013. Mathieu Terrence, puisque la répétition fait partie de la pédagogie et que certains nous prennent en route, rappelez-nous ce qu'est le transhumanisme. Votre définition.
Alors,
du
c'est
transhumanisme.
Plutôt la mienne, oui, c'est ouais. Ma définition, ouais. C'est pas celle des transhumanismes. Je dirais que c'est une doctrine qui propose une idée du futur, mais qui sous-entend que, surtout à mon sens, que l'homme est insuffisant, qu'il est terriblement mal fichu, que ça va pas, quoi. Et qu'il a, pour fonctionner mieux en société, il a tout intérêt à se transformer pour correspondre à l'idéal que cette société diffuse, en fait.
Jean-Michel Beignet, qu'est-ce qui rassemble les transhumanistes ? Leur point commun, c'est de partager une vision positive de l'innovation.
Je serais assez d'accord avec Mathieu Terrence pour dire que ce qui... solidarise les transhumanistes, c'est une certaine conception dépréciée de ce qu'est l'humain. Il y a très fondamentalement chez eux l'idée que ça ne peut plus durer, que l'humanité est une aventure à peu près ratée, hein, et il faut la rectifier d'une manière ou d'une autre.
Ce qui est beau en soi, qu'elle soit ratée.
Ce qui est beau en soi, vous avez parfaitement raison, parce que c'est sans doute notre privilège que d'être une espèce ratée qui a précisément à faire une histoire, à s'engager dans un avenir. Mais les transhumanistes, finalement, ils héritent tous d'une espèce de dépression fondamentale qu'on identifie quelquefois au début du XXe siècle, hein, lorsque on s'est mis en tête d'utiliser la biologie à des fins eugénistes. Hein, lorsque certains biologistes, Francis Galton par exemple, ont annoncé que la biologie, ça devait servir à améliorer l'homme, la question était de savoir pourquoi. Et la réponse qui était donnée à l'époque, c'est il faut améliorer l'homme pour qu'il soit à la hauteur des machines qu'il est en train de développer. Voilà le paradoxe. Hein. Et ça a couru tout au long du XXe siècle. Ça a culminé dans les années 1950. On convoque souvent le philosophe Gunther Anders, qui avait inventé un nom pour la nouvelle pathologie qui saisissait les hommes à la moitié du XXe siècle. Il appelait ça la honte prométhéenne d'être soi. Ça voulait dire que les humains éprouvaient de plus en plus de la honte à constater que les machines qu'ils avaient construites les dépassaient, et aller les dépasser toujours un peu plus.
Mathieu Terrence, dans votre ouvrage, vous interrogez le credo des transhumanistes et vous les prenez au mot. Augmenter nos capacités pour vivre heureux pour toujours. Et vous vous demandez, augmenter comment nos capacités, bah lesquelles, pour vivre quelle vie, heureux, qu'est-ce que ça veut dire, pour toujours, pourquoi?
Oui, c'est effectivement, vous venez de dire un petit peu le slogan de base de...
Augmenter nos capacités pour vivre heureux pour toujours.
Oui, parce que je me suis amusé en fait à aller voir le corpus transhumaniste, il y a beaucoup de... Ça fait florès dans les médias le transhumanisme, mais ils ont eux-mêmes, ils diffusent, ils écrivent, ils ont des sites, ils ont des conventions, il y a des organismes. Et donc je suis allé voir un peu de... Qu'est-ce qu'ils disent et aller en fait déconstruire un petit peu leur discours. Donc je me suis intéressé en les prenant au mot. Mais c'est une idéologie aussi qui explose, enfin on dirait qui apparaît aussi à un moment où la science met la main entièrement sur la matière, hein, et avec le nucléaire et avec le génétique. Et il y a une sorte de superstition des transhumanistes qui considéreraient que puisqu'on est arrivé, disons, au Lego ultime de la matière, on peut, en ayant décodé, on peut recoder. Donc il y a l'idée qu'on peut donc programmer ce qu'est l'humain et programmer ce que va devenir la vie. Et à ce moment-là, moi, c'est là où je, par exemple, une des choses que je combats, enfin, ou disons que je questionne, c'est-à-dire que il y a un fantasme de faire disparaître le hasard, donc la liberté, et à mon avis, ce qui fait un petit peu le sel de l'existence avec aussi ses drames, hein, bien sûr.
Mais... Christophe André, j'interpelle le psychiatre que vous êtes, augmenter nos capacités pour vivre heureux pour toujours, ça pourrait a priori vous séduire, a priori.
Bien sûr, moi je suis médecin, donc en étant confronté, mais comme tous les humains d'ailleurs, mais peut-être de plus près en tant que médecin, à la souffrance, à la violence de la mort, évidemment que tout ce qui peut représenter des avancées pour l'amélioration de notre santé, pour la prolongation de notre vie, m'attire énormément. Mais ce qui me frappe dans ce mouvement du transhumanisme, enfin nos deux experts pourront peut-être corriger, c'est qu'il n'est pas issu du monde médical, il est issu du monde de la technologie, de la haute finance, des gens qui ont fait fortune. Et parce que c'est vrai que autant les médecins souhaitent que la souffrance recule, que la maladie recule, que la durée de vie s'allonge, autant jamais, à mon avis, la médecine a affiché ouvertement l'ambition de rendre les humains immortels et jamais malades.
Jean-Michel Beignet.
Oui, c'est vrai, et il y a quand même des biologistes comme Jean Rostand qui ont écrit des livres en faveur de l'amélioration de l'espèce, et on peut aussi trouver chez quelqu'un comme François Jacob, des propos qui vont dans le sens du transhumanisme d'aujourd'hui.
Rappelez qui est François Jacob,
l'auteur de La logique du vivant, donc un prix Nobel de médecine, qui est associé essentiellement à l'introduction des sciences de l'information dans la biologie. Donc l'idée du Lego que vous évoquiez tout à l'heure, c'est une idée de François Jacob, dire que finalement le vivant c'est un grand Lego. Hein, il faut trouver les briques de base et quand on aura trouvé les briques de base, on pourra effectivement reconfigurer cet humain et dans un sens...
Toute la question se situe dans le... Qu'est-ce qu'on appelle améliorer ? Et là, on pourrait tous en discuter. C'est-à-dire qu'il y a quand même une convergence et il y a une idée très nette de ce qu'est un homme qui est amélioré. On ne voit pas de transhumanisme qui propose un homme plus paresseux. Moi, ça m'intéresserait. On ne voit pas un transhumanisme qui propose un homme moins adapté, au fond, à ce qui sont les valeurs de nos sociétés industrialisées et performantes. Et donc, là, on voit une espèce de proposition univoque. Voilà. Et quand ça devient univoque, c'est un petit peu... Il faut un petit peu...
Moi, je rêve d'un homme plus rêveur, par exemple.
Voilà, hein, voilà.
Bonjour Hélène.
Bonjour.
Vous vous appelez de Vence. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Dites-nous tout.
Merci. Bien, j'ai lu récemment deux ouvrages absolument magnifiques. L'un, c'est La vie vivante de Jean-Claude Guibaud et l'autre de David Breton, La Dieu au corps, et qui m'ont sensibilisé à cette notion du transhumanisme. La question que vous posiez au départ, c'était est-ce que le transhumanisme vous fait peur? Ma réponse est oui.
Pourquoi, Hélène?
Alors pourquoi? Pour moi, ce qui fait le propre de l'humanité, c'est entre autres la conscience de la propre mort, et donc qui renvoie à la responsabilité, qu'est-ce que je fais de ma vie en attendant l'échéance inévitable et assurée. Et donc, tout à l'heure, j'entendais un de vos interlocuteurs qui disait « Oui, les transhumanistes sont frustrés de cette humanité qu'ils considèrent comme ayant raté sa mission. Peut-être en termes de technologie, peut-être aussi a-t-elle raté quelque chose que le transhumanisme ne pourra pas résoudre. » Et qui est plutôt l'avènement d'une conscience qui grandit justement quand nous valorisons la vie non pas en tant que durée, mais dans tout ce qu'elle a de fragile, d'éphémère, et auquel les réponses à apporter ne sont pas des réponses technologiques, mais des réponses de responsabilité, des réponses d'amour.
Merci beaucoup Hélène de Vence pour ce beau témoignage. Jean-Michel Beignet, il faut rappeler que l'un des projets, l'un des buts profonds des transhumanistes, c'est de tuer la mort.
C'est de tuer
d'euthanasier la mort.
Voilà, euthanasier la mort, c'est un slogan qu'on a associé à une société qui s'appelle Calico, hein, qui a été fondée par Google. Donc, tuer la mort. Alors, tuer la mort, c'est évidemment un slogan qui veut dire tuer la vulnérabilité, hein, qui est celle des humains. Donc, quand on va dans le sens de l'intervention de notre auditrice, on voit bien qu'effectivement, on touche à quelque chose d'extrêmement profond, parce que cette interlocutrice qui associe l'amour, la responsabilité à la fragilité, dit quelque chose d'extrêmement déconcertant pour un transhumaniste qui, lui, pense que nous voulons naturellement nous débarrasser de toutes nos limitations. Or, nos limitations, c'est ce qui fait notre humanité, c'est ce qui fait que nous communiquons les uns avec les autres.
On reviendra sur cette question de la mort juste après les choses vues de notre psy préféré, Christophe André.
Choses vues.
Je suis votre thérapeute.
Christophe André.
Cher Christophe André, on retrouve tous les mardis vos choses vues. Qu'avez-vous vu cette semaine?
Cette semaine, en arrivant à l'hôpital Sainte-Anne en scooter par le boulevard périphérique, je suis passé comme d'habitude par la porte de Gentilly. Alors comme le savent les Parisiens, près de la porte de Gentilly se trouve un grand cimetière juste à côté d'un beau stade. Au passage, c'est le stade du PUC, un célèbre club de rugby parisien. Alors j'aime bien ce voisinage entre les morts et les vivants, entre les clameurs et le silence, entre le mouvement et l'immobilité. J'aime bien que la vie et la mort soient présentes à se côtoyer sous le soleil comme l'ombre et la lumière. que deviendrait tout ça si l'on ne mourait plus ?
Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant, je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre fossoyeur. Je suis un pauvre fossoyeur.
Eh oui, si l'on ne mourait plus, ce serait la fin des fossoyeurs, mais aussi la fin des enfants, puisqu'il n'y aurait plus de place pour les accueillir. Ce serait la fin de tout un tas de choses, et ça serait vraiment un drôle de monde, qu'un monde dont on aurait éradiqué la mort. Un peu comme une pièce dans laquelle on n'éteindrait jamais la lumière. Voilà, c'est ça. La vie à l'ère du transhumanisme ressemblerait peut-être à la vie dans un appartement où il ne ferait jamais sombre, où il ne ferait jamais nuit, un jour perpétuel. Bon, c'est peut-être mieux que les ténèbres du tombeau. Mais intuitivement, quelque chose me met mal à l'aise dans le transhumanisme. Il me semble qu'il est entaché d'un double péché. Péché d'orgueil, d'abord. Georges Brassens est mort, Guillaume Apollinaire est mort, Marie Curie est morte, Socrate est mort, Bouddha est mort. Tous les humains qui nous ont précédés et qui nous valaient bien sont morts. Et nous, nous voudrions ne pas mourir. Péché d'égoïsme ensuite. Ne pas vieillir, ne pas mourir, ça va coûter des sous. Et ce sont évidemment les riches et les puissants qui passeront les premiers. Comment l'humanité pourrait accepter ça? Mais en même temps, je ne veux pas faire le malin. Si tout à l'heure, à la fin de l'émission, quelqu'un me proposait de toper là pour vivre 150 ans en bonne santé, j'aurais sacrément envie de dire oui, quel qu'en soit le prix. C'est ça finalement le plus diabolique dans cette histoire de transhumanisme. Elle met le doigt sur nos contraintes. Contradiction profonde. L'envie de respecter la loi naturelle, qui est de naître, de vieillir, de mourir, d'accepter de faire comme celles et ceux qui nous ont précédés sur la planète, laisser la place à ceux qui vont nous succéder, mais aussi l'envie de lui échapper à cette loi naturelle. Parce que tout de même, qui ferait vraiment et sincèrement le choix de vieillir, le choix de mourir, si le choix inverse, ne pas vieillir, ne pas mourir, était possible, facile et accessible à tous. Moi, en tout cas, j'aimerais beaucoup vivre encore une petite centaine d'années, tant la vie est belle et passionnante. Pas vous, Ali ?
Bah oui. Merci, Christophe André. Le fossoyeur de Georges Brassens, ça m'a bien remonté le moral. Vous savez.
Désolé.
Non, Jean-Michel Beignet, Mathieu Terrence, pourquoi ce fantasme d'immortalité des transhumanistes ne vous fait pas rêver, Jean-Michel Beignet ?
Bah, pour une raison simple. C'est que ce fantasme d'immortalité, il est associé à l'idée que la biologie pourrait pérenniser nos métabolismes biologiques. Or, je pense que être humain, c'est être un peu plus qu'un vivant, hein, dont on manipulerait la biologie pour permettre cette routinisation des métabolismes. Au fond, l'immortalité que nous proposent les transhumanistes, c'est l'immortalité d'un animal hein, qui appartient à une espèce immortelle, potentiellement immortelle, et qui, en tant qu'individu, n'est qu'un spécimen qui, finalement, renaît cycliquement. Hein. Donc, cette idée d'animaliser l'humain en lui promettant précisément cette survie, c'est ça qui me désespère, parce que je vois qu'elle séduit bon nombre de mes contemporains, et je me dis, mais d'où vient que les gens puissent s'habituer à l'idée qu'on les machinise et qu'on les animalise, hein, sous prétexte de leur accorder quelque chose à propos de quoi ils ne se posent pas la question du comment ce sera, pour quelle finalité, etc. Donc voilà, c'est ça qui me gêne.
Mathieu Terrence, ce projet de tuer la mort, ça tuerait aussi ce qui fait la beauté de la condition humaine, sa vulnérabilité, sa fragilité, la conscience de sa finitude qui le pousse à rêver, désirer, inventer, transmettre.
Oui, ça, sans aucun doute. À vrai dire, je n'arrive pas, et il serait très difficile de se mettre dans le paradigme de conscience d'une vie qui serait immortelle. Nous avons un héritage, nous avons dans notre cortex précambrien intégré l'idée que notre vie ne doit cesser. Donc, je ne peux même pas juger de ce que serait cette vie immortelle.
Par contre, je peux juger de
ce projet-là, hein, qui est le projet transhumaniste, qui s'intègre, qui est du côté du bien puisqu'il est du côté du progrès. Hein. Et le progrès, avec les transhumanistes, comme souvent, c'est s'émanciper au fond des lois de la nature et même de les transgresser ou de s'en délivrer.
Mais ça permettrait de vivre mille vies, de se former, de s'éduquer, d'apprendre mais sans cesse
vivre mille vies
de nouvelles compétences. Peut... Je me mets dans la peau d'un transhumaniste, là, Mathieu
Mais ce qu'on peut, c'est qu'on peut vivre mille vies en une vie, si on la vit complètement, intensément, si on a la capacité d'avoir complètement conscience de notre être à l'univers. Il y a un infini qui est déjà accès, qui est le propre d'une vie vraiment vécue. Hein.
Allez, nous attendons vos témoignages, réactions et questions au 01 45 24 7000 par mail grand bien vous fasse à radiofrance.com et sur notre page Facebook. Et là, on écoute Frère Animal.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rébéi.
Si tu veux savoir comment je me sens, abonné absent. Si tu veux savoir comment ça va seul, comment ça va sans. Si tu veux savoir comment ça aboie, comment y a personne. Si tu veux savoir, j'ai fait ça pour rien, je fais ça très bien, j'ai fait ça pour rien. Si tu veux savoir, j'aurais préféré tes soleils couchants, ta plage en été, ta robe de mariée, le troisième enfant. Si tu veux savoir, comment t'es plus là, combien je te dois. Si tu veux savoir, j'ai la panoplie de mon ennemi. J'ai fait ça pour rien, je fais ça très bien, j'ai fait ça pour rien. Si tu veux savoir, j'aurais préféré tes soleils couchants, ta plage en été, ta robe de mariée, le troisième enfant. Si tu veux savoir, j'ai tout essayé, je pars sans payer. Si tu veux savoir.
L'excellent Frère Animal, si tu veux savoir.
Ali Rébéi, grand bien vous fasse, sur France Inter.
10h39, faut-il avoir peur du transhumanisme, ce courant de pensée qui promet un homme amélioré, augmenté, qui pourrait pourquoi pas vivre plusieurs centaines d'années, de quoi bouleverser nos existences, en compagnie du philosophe Jean-Michel Beignet, qui publie « Les robots font-ils l'amour ?» et de l'écrivain Mathieu Terrence, qui vient d'écrire « Le transhumanisme est un intégrisme ».
On ne peut pas ne pas être sensible aux théories du transhumanisme parce que c'est ce qui va advenir. C'est déjà ce qui advient. Ça veut dire qu'à chaque fois que on a imaginé que ce que la nature nous infligeait, une douleur, une souffrance, une maladie, une dent qui tombe, un œil qui voit moins ou ce genre de choses, eh bien les hommes ont inventé des prothèses. Et nous avons des prothèses, j'en ai une, avec une paire de lunettes, et on est déjà dans le transhumanisme, dans cette configuration-là. C'est-à-dire qu'on change les hommes. Ce que nous perdions, par exemple, en vue, quand on n'avait pas la possibilité d'utiliser des lunettes, eh bien, on le compensait par l'ouïe, par exemple. Donc, la médecine, elle part du constat qu'il faut faire du transhumanisme, c'est-à-dire qu'il faut augmenter l'homme, élargir l'homme, ou faire de telle sorte que tout ce qui est maladie, eh bien, on doit pouvoir lutter contre.
Le philosophe Michel Onfray, en octobre 2016, sur son site michelonfray.com. Alors, Michel Onfray nous dit que le transhumanisme, c'est ce qui va advenir. Jean-Michel Beignet.
En tout cas, là où je ne suis pas d'accord avec Michel Onfray, c'est qu'il confond l'homme réparé et l'homme augmenté. Hein. Une paire de lunettes répare.
Il n'existe pas de continuum entre les lunettes et les puces implantées demain dans nos cerveaux pour augmenter nos performances ?
Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il y a deux dispositions d'esprit. Hein. Réparer un œil qui voit mal, ça n'est pas la même chose que de se mettre dans la tête, par exemple, d'importer un gène gènes issus du génome d'une chauve-souris pour pouvoir installer dans l'humain une audition qui ressemble à l'écholocation de la chauve-souris. Ça n'est quand même pas la même chose. Hein. On change non seulement d'échelle, mais de destination. Hein. Réparer un homme, réparer un humain, ça n'est pas l'augmenter.
Mathieu Terrence.
Oui, enfin, avec ce que dit Onfray, on a l'impression de passer un peu du serment d'Hippocrate au serment d'hypocrite. C'est-à-dire qu'il nous fait croire que corriger, enfin, la médecine corrige, répare effectivement, et là, elle se propose de transformer. Ouais, c'est quand même un saut qualitatif. On est plus dans une correction quantitative d'un savoir. Et puis, alors, bon, ensuite, pour les puces implantées, tout ça, il y a des degrés. C'est-à-dire, moi, ce qui me paraît le plus troublant, c'est le désir de maîtriser les programmations génétiques. Parce que là, on est dans quelque chose qui, à l'origine, induit un destin à quelqu'un. Outre le fait que ça me paraît un peu fantaisiste d'intégrer des puces, enfin, ça parle à l'inconscient et d'une manière de science-fiction, ça fonctionne, mais ensuite, pratiquement, ça ne marche pas. Par contre, l'idée de pouvoir programmer génétiquement quelqu'un pour qu'il ait la vie qui doit correspondre, en plus, à nos valeurs à nous, parce que, qui sait, dans deux siècles, si justement mon paresseux, là, que j'invoque de mes voeux, n'aura pas voix au chapitre, eh bien, là, il n'en est plus question. Hein, on aura des...
Jean-Michel Beignet, les hybridations entre hommes et machines ont déjà commencé. Qu'est-ce qui sera concrètement possible dans un proche avenir? Intervenir dans l'ADN humain pour en supprimer, par exemple, les séquences responsables de maladies génétiques, fabriquer une imprimante 3D d'organes.
Bon, là, vous me demandez de faire de la futurologie, et c'est pas vraiment mon domaine, mais on voit.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans les projets des transhumanistes en la matière?
Par exemple, on a découvert un outil extraordinaire, un ciseau moléculaire, comme on l'a appelé, CRISPR-Cas9, qui donne la possibilité de faire avec le génome du copier-coller, hein, identifier un gène dans un génome, le couper, le transporter et l'intégrer dans un autre génome. Ça, c'est extraordinaire parce que ça redonne du crédit à ce qu'on appelle les thérapies géniques et ça permet d'imaginer de supprimer un certain nombre de maladies héréditaires extrêmement graves et pénalisantes. C'est formidable. Bon, les Chinois se sont emparés immédiatement de CRISPR-Cas9 en se disant mais on va en faire l'instrument qui va permettre de booster l'intelligence des petits Chinois et de faire des sociétés de petits Einstein. Donc on voit bien comment donc un dispositif qui est parfaitement adapté au projet de réparer peut immédiatement être dévoyé pour en faire l'instrument qui permettrait de transformer l'espèce et effectivement d'affecter toutes les lignées générationnelles à venir.
Mathieu Terrence.
Sauf que Einstein, c'est un génie. Et le génie n'a rien à voir avec la perfection.
Et les Chinois le savent pas.
Oui, et puis mais ça va avec la définition aussi de l'intelligence. L'intelligence, on peut en avoir tous une définition. Et, je ne sais pas, moi, Copernic, Einstein, Mozart, Picasso, Artaud, n'étaient pas transhumains. Et ils ont proposer à l'espèce humaine des choses qui, quand on écoute le projet d'un homme transhumain, n'est pas à la portée d'un transhumain, qui lui sera parfait. Il n'y aura pas cet espace entre comment dirais-je, une sorte de vacuité immense et une toute-puissance qui fait la possibilité merveilleuse de l'humain. Enfin,
Denis Gabor, prix Nobel de physique en 1971, l'inventeur de l'holographe, affirmait que tout ce qui est techniquement réalisable mérite d'être réalisé, quoi qu'il en coûte. Éthiquement, c'est le credo, Jean-Michel Beignet, de la plupart des transhumanistes. Votre co-auteur, Laurent Alexandre, co-auteur des robots font-ils l'amour, n'est pas d'accord avec vous. Il se demande si en 2080, eh bien, on mettra en prison les aveugles qui voudraient, par exemple, se faire implanter une rétine artificielle qui donne une vision supérieure à la normale. Sur la question éthique.
Denis Gabor ne disait pas qu'il y avait... tout ce qui est techniquement réalisable mérite d'être réalisé, mais sera réalisé. Hein. Donc il était dans une posture plutôt de constat que dans une démarche normative. Et c'est effectivement le problème. Nous ne savons pas maîtriser notre maîtrise technologique, hein, et nous sommes sans cesse confrontés à des processus d'accélération. La technologie, elle fonctionne de manière quasiment endogène, de manière quasiment autonome, et nous posons effectivement la question de savoir comment réguler la chose. Christophe André évoquait tout à l'heure cette espèce de paradoxe qui affecte l'humain. Hein. L'humain peut effectivement avoir le sens commun et considérer que vivre, c'est forcément mourir, mais si on lui donne la perspective de ne plus mourir, à ce moment-là, il change d'avis. Et c'est ça, il faut que nous fassions avec ce paradoxe dans un contexte où les technologies veulent supprimer les hasards, veulent supprimer tout ce qui est de l'ordre de la limitation.
Quelles sont les forces en présence pour mettre en œuvre ce projet transhumaniste? Les dirigeants de Google, Amazon, Facebook, Apple, ce qu'on appelle les GAFA, financent des programmes transhumanistes?
Oui, bien sûr, à grande échelle. Hein, la plupart des sociétés technologisées investissent à grande échelle dans les technologies qui sont donc adulées par les transhumanistes. Mais il faut se dire aussi que nous sommes des sociétés qui adulons l'innovation. Hein, et aduler l'innovation, c'est se dire que l'essentiel, c'est de multiplier des objets, et le marché décidera quels objets devront être retenus. Ce qui fait que nous fonctionnons à vue, hein, et dès que nous pouvons réaliser un objet, aussi fantaisiste soit-il en un premier temps, nous le faisons en nous disant que le marché peut-être le retiendra. Et cette dynamique-là est une dynamique complètement absurde, en soi absurde, et en même temps extrêmement pernicieuse.
Bonjour Olivier Delcroix.
Oui, bonjour Ali.
Vous êtes directeur du Figaroscope, grand spécialiste de culture pop. Le transhumanisme, c'est un thème qui passionne la science-fiction, de Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol, en passant par Robocop de Paul Verhoeven.
Ben oui, effectivement, au cinéma, en tout cas, le transhumanisme tourne principalement autour du concept de l'homme augmenté. Et c'est vrai que, par exemple, pour prendre l'exemple de Robocop de Paul Verhoeven, qui a été tourné déjà il y a 30 ans, en 87, on s'aperçoit que Robocop est un précipité de tous ses autres films, parce qu'en fait, c'est un chef-d'œuvre assez grinçant, assez violent, qui met en scène un héros mi-homme, mi-machine, donc un cyborg, selon la définition de Martin Kaidin en 72, hein, parce qu'il avait publié ce livre qui s'appelle Cyborg, qui donnera évidemment ensuite la série L'homme qui valait 3 milliards avec l'histoire de la bionique. Mais cet homme, mi-homme, mi-robot, est un flic à moitié mort au départ, qu'on ressuscite. C'est un cartel industriel qui le ressuscite, donc il est prisonnier en fait de sa carcasse robotique hyper technologique, et il va se mettre à lutter pour la justice et également pour savoir s'il y a encore une âme. Et c'est principalement la problématique de Robocop et de tous ces films qui tournent autour du concept du transhumanisme et de l'homme augmenté, c'est de savoir si on risque pas de perdre son âme à force de jouer avec le feu, à force de modifier son corps jusqu'à la perfection. C'est ce qu'on voit aussi dans The Island de Michael Bay, où finalement des humains clonés sont utilisés comme pièces détachées par une caste de riches qui domine la planète. Ou même dans iRobot d'Alex Proyas, qui, avec Will Smith, joue sur les concepts d'Isaac Asimov. Donc effectivement, la marche de l'homme vers l'immortalité, cette quête folle vers une sorte de fontaine de jouvence et de surpuissance, sont les principaux thèmes développés dans Verhoeven. Et je me souviens de cette phrase terrible à la fin du film, quand sa coéquipière est blessée à mort. Robocop lui prophétise dans une phrase terrible: ils te sauveront, ils peuvent nous sauver de tout.
Merci.
Et c'est terrible, et c'est désabusé.
Merci beaucoup Olivier Delcroix, directeur du Figaroscope. Question un peu provocatrice, Mathieu Terrence, Jean-Michel Beignet. Quel mal y a-t-il à vouloir être mieux que bien, pour reprendre un argument transhumaniste, Mathieu Terrence?
Aucun mal, mais c'est toujours une question de définition et de ce qu'on appelle mieux que bien. J'aimerais juste à ce propos justement revenir sur la parole de Laurent Alexandre tout à l'heure, qui était le propos d'un VRP patenté du transhumanisme, et qui prétendait que les aveugles qui voudraient se faire prothéser iraient en prison. Eh bien, évidemment que c'est l'inverse qui augure les transhumanismes, et ceux qui ne seront pas prothésés seront des sous-hommes dans un monde transhumaniste.
Jean Jean-Michel Beignet, pourquoi le projet transhumaniste provoquerait, selon vous, un cataclysme sociétal ?
Je pense que si les idéaux ou les objectifs des transhumanistes se réalisaient, nous créerions une humanité à deux vitesses. Évidemment, et Mathieu Terrence vient de le dire, il y aurait d'une part les nantis, les augmentés, ceux qui auront bénéficié de toutes les technologies, et puis il y aurait les autres, c'est-à-dire vous et moi, qui serions les chimpanzés du futur, exactement, comme disent les transhumanistes. Et là, on peut effectivement augurer que ça sera pas la lutte des classes, mais ça sera la lutte de deux humanités, l'une contre l'autre. Et là, le combat sera évidemment sans merci.
Bonjour Julien Bisson.
Bonjour Ali.
Directeur du magazine Lire, expert éclairé de Grand Bien Vous Fasse, vous avez une petite poignée de minutes pour nous dire quelle œuvre littéraire vous inspire quand on vous parle de transhumanisme. Vous m'avez tout de suite répondu, Frankenstein.
Et oui, parce que Olivier Delcroix remontait à Robocop il y a un peu plus de 30 ans, moi j'ai remonté encore plus loin, il y a presque 200 ans. En 1818, une jeune femme de 21 ans, Marie Shelley, mettait au point, vous savez, ce récit gothique évoquant la folle ambition d'un savant suisse, décide à créer la vie à partir de morceaux de corps récupérés dans les morgues et les salles de dissection, mais la créature, une fois en vie, rejetée pour sa laideur, se révoltera contre son créateur et le poursuivra de son implacable vengeance. Alors, faut rappeler une banalité. Frankenstein, ce n'est pas le nom du monstre qui ne porte
c'est
pas
le docteur,
nom.
C'est le médecin.
Le monstre ou la créature. Frankenstein, c'est le docteur. C'est le nom du savant suisse, Victor Frankenstein. C'est une banalité de le rappeler, mais ce n'est pas banal pour autant. Car finalement, l'être le plus monstrueux dans ce roman, c'est bien Frankenstein, ce Prométhée moderne, comme l'indique le sous-titre du livre, coupable de l'hubris qui le fait prendre pour Dieu, qui confond biologie et mécanique et le conduit à briser le tabou de l'étincelle de vie. En fait, ce que Marie Shelley nous dit dans le roman, 150 ans avant 2001, l'Odyssée de l'espace, 200 ans avant Matrix et l'intelligence artificielle, elle nous avertit déjà des dangers du projet transhumaniste, celui de voir la créature se retourner in fine contre son créateur. Ce n'est sans doute pas un hasard, c'est 10 ans après Frankenstein, Marie Shelley publie un autre roman à l'intrigue tout aussi effrayante, son titre, Le Dernier Homme.
Merci beaucoup Julien Bisson, Frankenstein ou Le Prométhée moderne de Marie Shelley à lire en poche. Pour terminer, Jean-Michel Beignet, Mathieu Terrence, doit-on craindre dans les décennies à venir un meilleur des mondes, pour reprendre le titre de l'extraordinaire roman de Huxley, Mathieu Terrence?
L'utopie, faut la craindre au présent. Faut se méfier de ce que un horizon signifie sur notre présent à nous. Voilà, faut se méfier du présent.
Jean-Michel Beignet, est-il possible d'éviter ce bonheur insoutenable en germe dans l'idéologie transhumaniste?
Il m'arrive de penser que nous laissons s'installer une espèce de totalitarisme soft dans nos esprits et dans notre vie quotidienne. Nous voulons un homme nouveau et nous pensons que cet homme nouveau devra évoluer dans un monde qui sera complètement aplati, qui sera complètement transparent. C'est en gros quand même la description basique d'un totalitarisme.
Et Francesca nous dit par mail, j'ai 48 ans, je ne veux pas de transhumanisme, je refuse d'être augmenté, je veux pouvoir vieillir, accepter mes limites, je veux pouvoir parler de la mort sans tabou. Merci beaucoup Mathieu Terrence. Le transhumanisme est un intégrisme et publié aux éditions du Cerf.
Merci
Jean-Michel Beignet. Les robots font-ils l'amour? Le transhumanisme en 12 questions est publié chez Duno. Et si le futur vous intéresse, eh bien je vous conseille d'écouter l'émission de Dorothée Barba demain la veille, ce dimanche à 17h. À suivre l'intervention de Sabrina Nadjar, rédactrice en chef adjointe de Femmes Actuelles.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Rebonjour Sabrina.
Rebonjour.
Tout va bien?
Très bien.
Alors cette semaine dans Femmes Actuelles, vous vous intéressez à ces femmes qui deviennent mères à l'âge de 40 ans et plus.
Oui, nous nous intéressons effectivement aux maternités tardives parce qu'elles ont atteint un niveau en 2015 totalement inédit et sont en progression constante depuis les années 80. Et puis, fait intéressant, plus d'un quart d'entre elles sont des premières naissances.
Et alors, les maternités tardives ont atteint un niveau inédit en 2015. C'est un phénomène entré dans les mœurs?
C'est un phénomène entré dans les mœurs parce que ces femmes font un choix qu'elles revendiquent. Et ce choix est un choix totalement sociétal. Aujourd'hui, elles s'expliquent par des raisons totalement multiples. Les études prolongées, un investissement des femmes dans leur carrière de plus en plus important, sans compter la difficulté à rencontrer un père pour son enfant ou à convaincre son conjoint que le temps presse.
Et le sociologue Marc Bessin que vous avez interrogé explique que l'âge n'est plus un frein.
Oui, l'âge n'est plus un frein parce qu'avoir 40 ans aujourd'hui, c'est finalement comme avoir 30 ans dans les années 70. Et puis, les représentations de l'âge ont totalement évolué. On a acquis une maturité, une sagesse qui sont perçues comme autant d'atouts pour devenir parents. Et puis, les moyens médicaux suivent et réduisent totalement les risques inhérents à ces grossesses tardives.
Oui, le docteur François Oliven, spécialiste de la fertilité, rappelle que les techniques de procréation médicalement assistée ne peuvent pas tout.
Alors, elles ne peuvent pas tout, en effet, parce qu'il faut quand même savoir que le cap des 38 ans est un cap très important pour les femmes. En fait, à partir de cet âge, 30% des femmes ne réussiront pas à avoir d'enfants, alors que la plupart auraient pu y parvenir 2 ans auparavant.
Alors, vous avez recueilli quelques témoignages, comme celui d'Odile, 50 ans, mère d'un petit garçon de 8 ans et demi, et qui rappelle que c'est quand même crevant d'être mère à cet âge-là.
Tout à fait. Alors, c'est vrai que cette femme est avocate, qu'elle a des journées extrêmement lourdes et chargées, et elle dit qu'effectivement, avoir un enfant à 40 ans, on n'a pas la même énergie qu'à 30 ans.
Alors, je signale que la sortie du Petit Locataire avec Karine Viard, dans ce film, Karine Viard tombe enceinte à l'âge de 49 ans.
Mm-hmm. Hein. Absolument, alors tout à fait par hasard et qui va être totalement rocambolesque.
Merci beaucoup Sabrina Nedjar, rédactrice en chef à Femme Actuelle. Demain, on se demande à quoi ressemble vraiment la génération Facebook, Instagram, YouTube, celle de vos enfants et petits-enfants, loin des clichés et des idées reçues. À la technique ce matin, Elisabeth Collet et Gilles Gaillard.